Info, le journal
avec MCM,
présenté par Cédric Valax.
Allez, c'est parti pour le journal. Cédric, bonjour.
Bonjour Moreto et bonjour à tous. Nous parlerons tourisme pour commencer ce journal avec le projet de rachat du Méridien à Bola Bola. Et c'est Louis Van qui aimerait bien rajouter cet établissement dans son escarcelle, un hôtel qui appartient actuellement à EDT. Nous reviendrons aussi sur la nomination de Diana Shinchoy à la tête de Tahitian We Travel. Elle remplace Franck Faletta qui a démissionné après la vente de son entreprise au groupe du Samoan Frédéric Gray. Au chapitre politique, le toilettage du statut de la Polynésie finalement reporté au calendrier grec. Et vous l'entendrez, Lana Tetuanui dénonce une promesse non tenue de François Hollande. Enfin, nous reviendrons sur les débats au CESC hier qui avaient à étudier plusieurs modifications de dispositions du Code du travail relatives à l'aide à l'emploi et à la création d'entreprises. Et vous l'entendrez, ça coince.
Et on commence donc avec Louis Van qui veut racheter le Méridien Bora Bora.
Oui, l'information a été révélée hier par une notification auprès de l'autorité polynésienne de la concurrence. Après avoir vendu le Hilton de Moreira et le Saint-Régis de Bora Bora au groupe chinois Hainan, Louis Van veut maintenant racheter le Méridien Bora Bora au groupe EDT. Le patron du groupe Carrefour en Polynésie ne quitte donc pas le secteur de l'hôtellerie. L'homme d'affaires conserve d'ailleurs le Hilton de Bora Bora, bientôt rénové en classe Conrad, et l'ancien Hilton de Faa, aujourd'hui à l'abandon, ainsi qu'un hôtel à Fakarava. Du côté d'EDT, en revanche, le groupe se séparera de son dernier hôtel si l'opération est actée. EDT qui avait déjà vendu le Méridien Tahiti à l'homme d'affaires samoan Frédéric Gray en 2012.
Frédéric Gray qui est propriétaire de Tahitian We Travel.
Eh oui, c'est officiel depuis vendredi soir. L'homme d'affaires samoan est propriétaire du groupe Tahitian We Travel. Le protocole de vente du premier groupe de voyage en Polynésie avait été révélé par nos confrères de la Dépêche au début du mois de novembre. L'ancien propriétaire Franck Faletta a donc démissionné de son poste de directeur général de la société et c'est Diana Shinchoy, l'ancienne directrice de Tahiti Tour, qui prend désormais les rênes du groupe. La nouvelle direction qui assure qu'aucune restructuration n'est envisagée et qu'il n'est pas question de se séparer des salariés.
Et on poursuit avec le toilettage du statut de la Polynésie, finalement reporté au calende grec.
Oui, le toilettage du statut n'aura finalement pas lieu sous le quinquennat de François Hollande. Le projet de loi organique n'aura pas le temps d'être examiné par le Parlement. Une promesse non tenue du président de la République pour la sénatrice Lana Tetuanui. Écoutez les précisions d'Antoine Samoyau.
Depuis le temps qu'il est en discussion entre Paris et le pays, le fameux toilettage du statut de la Polynésie française n'aura finalement pas lieu. En tout cas, pas sous le quinquennat de François Hollande. C'est ce qui ressort de la question orale posée hier par la sénatrice Tapura Lana Tetuanui à la ministre des Outre-mer, Erika Barreit, sur le calendrier de cette réforme de la loi organique. La ministre a en effet expliqué que le projet de loi organique ne serait présenté qu'en janvier en Conseil des ministres à Paris et avec l'Assemblée nationale qui cesse ses travaux en février avant l'élection présidentielle, pas question de toilettage du statut sous la mandature de François Hollande. Ce sera donc pour plus tard et seulement si le gouvernement de l'éventuel successeur de François Hollande est sur la même longueur d'onde. Le président de la République n'a donc pas tenu sa promesse, conclut la sénatrice.
Politique toujours avec le vice-président du Front National, bientôt en Polynésie.
Oui, une information révélée hier par nos confrères de TNTV. Louis Alliot sera de passage en Polynésie à partir du 2 décembre prochain pour une petite semaine destinée à préparer la campagne présidentielle 2017. Lors du dernier scrutin en 2012 en Polynésie, Marine Le Pen avait dépassé tous les scores de son père en récoltant 5,73% des suffrages, quand le meilleur résultat de Jean-Marie Le Pen datait de 2002 avec 4,2%. Représentant du parti d'extrême droite en Polynésie, Éric Minardi affirme enregistrer une forte hausse de ses adhésions ces derniers mois pour comptabiliser aujourd'hui 400 membres.
Et cette question maintenant, les patentés vont-ils pouvoir récupérer les centimes additionnels reversés à la CCISM ?
Rien n'est désormais moins sûr. Souvenez-vous, le dossier avait fait du bruit en juillet dernier lorsque la justice avait déclaré illégale cette contribution des patentés à la Chambre de commerce. Eh bien, la Cour d'appel de Paris vient de revoir sa position. Attention, la décision définitive doit encore être rendue par le Conseil d'État dans les prochains mois.
Et on parle environnement avec ce coup d'épée dans l'eau de la Taharu.
Oui, hier, le rapporteur public du tribunal administratif a demandé l'annulation des deux arrêtés d'extraction de la Taharu datant des mois d'octobre 2015 et d'avril 2016. La raison en est simple, les procédures n'ont pas été respectées, et notamment celles concernant la présentation en Conseil des ministres de tout projet d'extraction dépassant un certain seuil. Maître Michael Fidel, qui représente l'association de protection de l'environnement, Yaora Taharu, se dit satisfait des conclusions du rapporteur public. Écoutez, il est au micro de Vaïté Oulal Ipambrin.
Il y a
quand même un signal qui a été lancé au ministère de l'Équipement, qui ne doit pas faire ses travaux de son côté, qui doit consulter le gouvernement, qui a la légitimité institutionnelle. Le rapporteur public a aussi relevé un point important. Il a dit qu'il ne fallait pas qu'il s'immisce dans l'opportunité, c'est-à-dire dans le pouvoir de décision.
Mais ça, c'est bien pour les autres projets, peut-être d'extraction ou de réaménagement des lits de rivière. Mais en attendant, à Tarou, il y a des matériaux qui ont été extraits. Hein.
Nous, on a essayé de soulever toutes ces choses qui nous paraissaient un petit peu bizarres, hein, une sorte de correspondance, de concomitance entre les grands projets du pays, comme le Mahana Beach, et puis des extractions qui ont été faites un peu à la hussarde, hein, sans respecter les formes. Mais bon, le juge a considéré que c'était difficile à annuler sur la base des données qu'on lui a données.
Trésorière et chargée de la communication de l'association Yahora Taharu, Maïré Grandin trouve elle aussi ses conclusions encourageantes pour l'avenir. Encourageante même si l'association sait que le gouvernement pourra régulariser les arrêtés autorisant l'extraction s'ils sont annulés.
Et on termine avec le CESC qui planchait sur des modifications de dispositions du Code du Travail.
Oui, le CESC, saisi hier matin en urgence pour rendre 4 avis sur des modifications de dispositions relatives à l'aide à l'emploi et à la création d'entreprises. L'institution a voté un avis favorable pour modifier l'aide au contrat de travail du primo salarié, l'acte prime. Par contre, ça coince sur l'aide au contrat de travail dont les conditions d'accès du dispositif vont être modifiées pour s'aligner sur celles de l'acte prime. Justement, le CESC craint des effets d'aubaine et regrette que la sécurité de l'embauche ne soit pas garantie et que le dispositif arrivera à son terme. Écoutez les précisions de la secrétaire générale du syndicat Hotel, Lucie Tifna, au micro de Valentine Bluet.
Voilà, c'est ce que je reproche à tous ces dispositifs. Il n'y a pas de retour sur investissement. Donc, sur un dispositif, on fixe effectivement une obligation, on va dire, de résultat. Voilà, il n'y a pas. Moi, j'avais proposé, je n'ai pas été suivi par mes collègues, mais je pense que de l'argent public, il faut quand même des résultats. Parce que là, je ne suis pas certain qu'au bout des 2 ans d'aide, et si effectivement, il n'y a pas d'activité dans les entreprises, il n'y a rien qui oblige un employeur de pouvoir garder le salarié. Il n'y a pas d'obligation. C'est des effets d'aubaine que beaucoup, effectivement, utilisent au travers de ces dispositifs. C'est pour cette raison, mais il faut quand même des garanties comme quoi l'argent public est bien utilisé à bon escient. Et ce n'est pas le cas.
La modification des chèques-services aux particuliers fait-elle aussi naître quelques craintes du côté de l'institution. Le gouvernement souhaite augmenter le volume horaire maximum mensuel des bénéficiaires en passant de 52 à 80 heures. Un élargissement que le CESC avait déjà refusé en 2014 et qu'il refuse une fois de plus. Les précisions du rapporteur de la vie, Tepuan Wisnow, toujours au micro de Valentine Bluet.
On a plein de piscinistes aujourd'hui qui sont patentés, qui payent leur charge tous les mois. À côté de cela, on va se retrouver avec un dispositif qui va permettre à des particuliers d'employer quelqu'un pour venir faire la piscine à la maison, et c'est le pays qui prend à sa charge les cotisations relatives à l'exercice de l'emploi de cette personne. Ça fait d'autant plus de concurrence déloyale que si on vient étendre à 80 heures le volume horaire pour l'exercice de ses fonctions, c'est quasiment un mi-temps.
Voilà, et vous retrouverez le détail de toutes les mesures étudiées hier par le CESC et leurs modifications sur notre site internet radio1.pf. 7h et presque 39 minutes, c'est la fin de cette édition. On passe tout de suite à l'écoute de vos messages sur votre répondeur.